A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Jeune, beau gosse, noir et élu député français, donc tout va bien. Sauf que ce juriste de formation, membre du parti La République En Marche, vient de rejoindre la longue liste des députés de l'Assemblée nationale visés par des menaces racistes. Jean-François Mbaye a publié il y a quelques semaines sur son compte Twitter une copie de cette lettre qui lui promettait, je cite, « une balle dans la tête », lui reprochant, je cite encore, « d'être un noir de service comme ceux qu'on case dans les pubs, afin de faire croire que les Français ne sont pas racistes ». Alors évidemment, nous n'avons pas à démontrer ici que tous les Français ne sont pas racistes. Monsieur Lapalisse n'aura qu'à balayer derrière moi. Non, non, cette lettre inqualifiable a au moins une vertu, celle de nous donner l'envie de rencontrer en sol majeur celui qui est bien décidé à relever le gant de ce genre de provocation et qui planche sur notre destin de Français râleur, généreux, désinvolte. À voter. Bonjour Jean-François Mbaye.
Bonjour.
Nangadef.
Magnifique.
C'est comme ça qu'on dit au Sénégal. Hein.
C'est cela.
Tiens, pourquoi le Sénégal ?
Étonnant.
Étonnant, hein ? Alors, en sol majeur a envie de vous offrir un droit de réponse à cette lettre raciste que vous nous lirez tout à l'heure, car on veut un peu avancer dans nos têtes en cogitant sur vos propres mots et sur l'attitude que vous avez décidé d'adopter. Mais avant ça, on va sortir les calèches, on va sortir le Bob Dylan sénégalais, c'est comme ça qu'on le surnomme, je crois, Souleymane Faye, que vous avez programmé avec un titre, dites-moi.
Niowal Geo.
Qui veut dire ?
En fait, c'est finalement la vie de quelqu'un qui s'était expatrié et qui revient dans son pays natal et qui a toutes les difficultés du monde à se faire accepter et à faire valoir sa différence aussi et son appréciation et sa vision de ce qu'il a pu acquérir en sortant de son pays natal.
Donc, vous écoutez ça souvent ?
C'est un des premiers morceaux que j'ai écouté parce que je dois vous avouer que mon père est un grand fan de Souleymane Faye. Et avec mon père, à l'époque, il avait des cassettes de Souleymane Faye et c'est un morceau qu'il écoutait très régulièrement.
Il y avait des calèches qui parlaient wolof dans votre enfance dakaroise, Jean-François Mbaye?
C'est autour des calèches, on parlait de tout, il y avait toutes les langues qui se parlaient.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est une enfance que j'ai beaucoup de plaisir à raconter, puisqu'il y avait autant de calèches dans la capitale que dans les régions. C'était un mode très fréquent pour transporter notamment du ciment ou du béton ou du sable, etc. Mais voilà, ça fait partie de mon univers.
Vous êtes l'aîné d'une fratrie de trois enfants et vous êtes issu d'une famille plutôt aisée, hein, c'est ça ?
Plutôt, je dirais pas ça, une famille dans la tranche intermédiaire, voilà. on n'était pas fils d'eux.
Que faisaient vos parents ?
Alors ma mère a travaillé pendant de très très longues années à la représentation diplomatique de l'ambassade d'Autriche au Sénégal. Elle a été prof d'allemand aussi. Mon père est ingénieur agronome de formation, a fait ses études en Tunisie notamment, et a été un temps à la direction de la recherche scientifique de l'ISRA, l'Institut Sénégalais de Recherche Agronomique.
La famille vient du Sénégal ou est-ce qu'il y a des ramifications ?
Ah oui, il y a beaucoup de ramifications. Du côté de ma mère, il y a quand même des ramifications jusqu'en Martinique, donc jusque dans les Antilles. Du côté de mon père, il y a aussi des ramifications jusqu'en France d'ailleurs, jusque dans les régions lointaines de France, notamment la Bretagne, puisque ma grand-mère paternelle porte le nom de jeune fille de Riomayol. Et puis on a aussi quelques ramifications en Gambie, du côté de mon père.
Alors, puisque vous parlez des Antilles, j'aimerais bien qu'on se rapproche d'un médaillon, celui de votre grand-mère maternelle, une certaine Catherine Yvette Lothaire, née de parents antillais sur l'île de Gorée. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire de migration-là ?
Mais écoutez, pas grand-chose, puisque ma grand-mère ne parlait pas beaucoup de ses deux parents en même temps, elle parlait plutôt de son père. Je sais que mon arrière-grand-père est né de père X, et ma grand-mère n'a jamais voulu aller plus loin.
Donc ça s'est un peu perdu dans les fonds marins, si j'ose dire, cette histoire d'origine.
Un petit peu.
Un petit peu. Vous êtes né, Jean-François Mbaye, en 79 à Dakar. Vous allez y rester jusqu'au bac et puis pour continuer vos études de droit. En 97, vous débarquez en France. Vous débarquez d'abord en Bretagne, donc, vous le disiez. Il y a un tonton hein, là-bas qui a été influent pour vous.
Oui, c'est le frère de ma mère, mon homonyme Jean-François, qui a été véritablement comme un grand frère pour moi.
Un modèle même ?
Un modèle, puisqu'il était dans l'armée, il était dans l'infanterie de marine. Et voilà, jeune, j'avais pour ambition de faire comme lui, de devenir comme lui, de devenir militaire.
Le costume ou pour servir le pays ?
Pour servir le pays et pour ce qu'il pouvait représenter à l'époque pour moi.
Et puis après la Bretagne, vous atterrissez au pays des aubergines, avec, vous savez, un peu d'ail et d'huile d'olive.
C'est-à-dire j'ai adoré.
À Perpignan. Et apparemment, là-bas, tout roule hein, aussi pour vous. Vous êtes accueillis par la famille, les choses ont l'air simples, pas de tracasseries administratives, par exemple.
Non, parce que ma grand-mère paternelle, qui vivait à Paris, avait pris le soin de contacter un de ses cousins, un ancien Saint-Louisien, qui avait quitté Dakar à l'âge de 7 ans, qui ne parlait plus un mot de wolof. Et vous savez, quand je suis arrivé, qui m'a un petit peu pris sous son aile, et la première phrase que je lui prononçais en arrivant, je lui dis « Mais est-ce que tu comprends encore le wolof ?» Il me dit « Oh, tu sais, moi, je suis parti depuis 7 ans, ça faisait 42 ans qu'il était en France. » Il me dit « J'ai rien gardé de ces mots-là. » Ça m'a fait peur, je me suis dit « Mais oulala, moi je viens juste pour 4 ans. » Voilà. Mon esprit, c'était « Je viens pour 4 ans, je finis mes études et puis je rentre à Dakar. »
Et vous parlez toujours wolof ?
Et je parle toujours wolof.
On y reviendra. Qui paye vos études à ce moment-là ?
C'est mes parents, c'est mon père. Mon père qui, courageusement, tous les mois, m'envoyait l'équivalent de 2500 francs.
Et, 2500 francs CFA ?
Français.
Français ?
2500 francs français. Et il me disait...
Ce qu'il fait en gros, CFA, dites-nous.
Écoutez, en euros déjà, ça fait 400 et quelques. On est sur un peu moins de 200 000 francs CFA. Entre 200 et 250 000 francs CFA.
C'est une somme.
C'est une somme énorme, donc c'était un vrai sacrifice.
Donc vous êtes... Il y a une obligation d'excellence hein, pour vous, quand, avec
tout
ce
challenge-là. Tout à fait, de réussite et d'excellence, voilà. Absolument.
Quelles sont vos premières impressions d'étudiant de Perpignan, fraîchement débarqué de Dakar ? Vous êtes venu déjà en France, mais en touriste. Là, vous n'êtes plus un touriste. Quelles sont vos impressions à ce moment-là ?
Perpignan, c'est une petite ville. J'arrive en septembre, je côtoie quelques étudiants. Mon premier réflexe a été de savoir s'il y avait d'autres étudiants sénégalais sur le campus que moi, et bah, figurez-vous qu'en fac de droit, nous étions 1500 et que j'étais le seul Sénégalais. Enfin, on était deux Sénégalais en fac de droit, 1500. Ça me changeait. Voilà, c'était littéralement le jour et la nuit avec ce que j'avais pu voir à Dakar, à l'université Charanta Diop. Mais j'ai surtout découvert Perpignan par les temps durs. Ce que j'appelle les temps durs, c'est en plein hiver. En novembre, au premier mois des partiels en janvier, où j'ai dû batailler pour rejoindre les centres d'examen. Je ne savais pas s'il fallait prendre des bus, s'il y avait des bus qui nous amenaient ou pas, parce que les examens se faisaient dans un centre culturel qui était à 6 km de Perpignan. Je peux vous dire que là, j'ai appris à découvrir cette ville, cette façon de fonctionner, et ça a été des coups de blues, des moments de blues.
Jean-François Mbaye, la chose politique, on va dire, vous échevillez au corps, je crois, depuis longtemps. Grâce à qui ?
Ben, grâce à ma grand-mère, déjà aussi, qui a été conseillère municipale sur l'île de Gorée, mais
Catherine
aussi, mais aussi surtout un homme, c'est de mon ère, hein, c'est de mon époque, c'est l'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf.
Vous allez nous dire pourquoi alors ?
Bien sûr.
Deux grands totems, deux grandes références comme ça planent autour de vous et de votre beau costume de député, Jean-François Mbaye. D'un côté, le côté français, vous avez François Mitterrand. Côté sénégalais, donc Abdou Diouf. On va commencer avec lui, avec un extrait d'un entretien accordé à RFI et France 24 pour International. On est en 2014 à ce moment-là, il est encore secrétaire général de l'OIF et il s'exprime sur la question de la révision de la Constitution.
Il faut revisiter l'histoire du Sénégal. Déjà, j'avais convoqué toutes les forces politiques en 1991-92 et nous nous étions mis d'accord sur deux mandats de 7 ans. Ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des failles dans ce système, mais si vous voulez le fond de ma pensée, si c'était à refaire, ce que j'ai fait en 1998, je ne le referais pas. Pour parler franchement, et là je ne parle pas au nom de mon organisation, pour parler franchement, moi qui ai été président pendant plus de 19 ans, je vous le dis les yeux dans les yeux, je pense qu'à notre époque, deux mandats suffisent largement à la tête d'un État.
Et comme entre deux.
Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Vous m'avez reproché d'avoir exercé une sorte de ministère de la parole. Mais moi, j'étais dans l'opposition. J'ai rempli mon rôle démocratiquement dans l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Et l'opposition, ce n'est pas rien dans une république. J'ajoute que j'ai utilisé ce temps pour faire avec d'autres un grand parti qui est devenu un parti menaçant pour la majorité presque ancienne que vous représentez aujourd'hui. Donc, je n'ai pas perdu mon temps. Et si je pouvais faire pour la France demain, à la mesure de la France, bien entendu, ce que j'ai pu faire pour le socialisme en France, ma foi, ce ne serait pas perdu.
Deux hommes, donc, avec deux styles, deux cultures, deux cosmogonies très différentes vous ont marqué, Jean-François Mbaye. Expliquez-nous.
Ben, d'abord, chez François Mitterrand, c'est le verbe. C'est cette capacité à employer le verbe d'une élégance qui peut titiller.
C'est la gifle mitterrandienne.
Voilà, c'est exactement ça. Et chez Abdou Diouf, c'est finalement cette présence. Vous savez, Abdou Diouf était un grand homme politique sénégalais, à la fois par la taille, mais aussi par sa capacité à avoir une vision et à installer un certain nombre de réformes. Et puis tous les deux étaient dans le même moule, c'est-à-dire le moule du socialisme. C'était des socialistes convaincus que ce positionnement politique faisait d'eux des humanistes. Et donc ça m'a toujours fasciné chez Abdou Diouf. Mais là où les affaires se gâtent, c'est que aux dernières années de son mandat, il a été rattrapé par le syndrome qui veut que la fonction de président est une fonction qui enferme. Et donc, il n'a pas su s'ouvrir. Et je crois que le socialisme, à cette époque-là, en tout cas au Sénégal, a connu un petit peu ses premières limites. Ici, en France, François Mitterrand a porté le socialisme. J'étais tout petit quand il a été élu président, pour ne pas dire bébé, mais de ce que j'ai appris par la suite, il a quand même porté le socialisme très haut.
Donc, deux figures comme ça, proches d'une certaine forme de socialisme. Entre Abdou Diouf et Mitterrand, c'est quand même assez différent, mais bon, il y a l'idée. Et je crois savoir que vous êtes par ailleurs aussi, Jean-François Mbaye, un grand lecteur d'un certain Jean Jaurès.
Oui.
Pourquoi ?
L'humaniste. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. quand j'ai décidé de m'investir en politique et que j'ai dû candidater pour être investi par La République En Marche, dans ma lettre de motivation, j'ai cité du Jaurès. Jaurès qui disait qu'il fallait avoir une foi inébranlable en l'avenir.
Et comment ça se fait que vous, qui êtes un lecteur de Jaurès et qui avez été au lait de Mitterrand et d'Abdou Diouf, vous n'ayez pas rejoint les rangs du socialisme? Pourquoi vous êtes devenu un macronien?
Parce que le socialisme, à une époque, m'a démontré ses limites à ne pas voir ce qui pouvait se faire de bien à l'extérieur du cercle socialiste. Et donc, en Emmanuel Macron, j'ai aussi reconnu cette idée de dire la politique, elle ne se construit, mais elle se construit avec des femmes et des hommes. Mais elle ne se construit pas uniquement avec des femmes et des hommes de droite ou de gauche, elle se construit avec des femmes et des hommes qui ont la volonté d'œuvrer pour un projet d'intérêt général.
Bon, en même temps, on est dans un temps politique un peu flou, hein. On est au-delà du cadre binaire droite-gauche, d'où votre génération qui se retrouve chez Macron. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement, et pas trop techniquement, mais pour qu'on sache un peu à qui on a affaire, pour faire connaissance en sol majeur avec vous, Jean-François Mbaye, en tant que député En Marche, c'est quoi le gros dossier, le premier dossier que vous, vous vous sentez de défendre en politique?
Il y en a plusieurs. Le premier dossier, s'il s'agit des convictions qui sont les miennes, je vais vous dire, donner un exemple qui est tout frais. La loi que l'on a votée à l'Assemblée, anti-casseurs, moi je me suis abstenu. Voilà, je me suis abstenu parce
Alors redites-nous ce que dit cette loi. Là vous faites référence effectivement au mouvement des Gilets jaunes et à tous les débordements qui ont entouré ce mouvement, et donc à cette loi anti-casseurs qui a fait couler de l'encre et du sang.
Cette loi, finalement, elle vient d'un sénateur de droite qui avait déjà réfléchi sur cette question de mieux encadrer les violences et les manifestations dans notre pays. Bon, on se trouve face à une conjoncture qui veut qu'on a un mouvement qui est là, qui est installé depuis quelques semaines maintenant, depuis des mois, et donc on veut y apporter une réponse, notamment en préservant l'ordre public. Dont acte. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Aujourd'hui, avec ces dispositions-là, je ne m'inquiète pas de ce que notre exécutif et que ce gouvernement l'appliquent de manière très rigoureuse en y mettant véritablement les formes, mais je m'inquiéterai d'une éventuelle utilisation de cette même loi par d'autres gouvernements et par d'autres tendances politiques. Donc je m'inquiète pour l'avenir et pour l'avenir des libertés
Donc,
publiques.
Donc abstention.
Donc abstention en première lecture.
Est-ce que c'est la première fois dans votre vie d'homme politique que vous recevez une lettre de menace comme celle que vous venez de recevoir?
Comme celle-là, oui. Mais c'est pas la première fois que je reçois des lettres de menace et des lettres racistes.
Et en général, ce sont des lettres de quelle teneur?
En général, vous savez, j'ai 40 ans. Ça fait maintenant une bonne vingtaine, 25 ans que j'entends toujours « rentre chez toi, t'es pas ici chez toi, sale noire, dégage », etc.
Alors on va accrocher nos oreilles en sol majeur pour dans un premier temps vous écouter nous lire cette fameuse lettre, Jean-François Mbaye.
De quel droit un Africain vient se mêler des problèmes de la France? Venu pour profiter des avantages du pays au lieu de promouvoir l'Afrique. Tu es ce qu'on appelle un noir de service, comme ceux que l'on case dans les pubs afin de faire croire que les Français ne sont pas racistes. Macron avait du mal à trouver des députés. Il a recruté dans les laissés pour compte du pays. La grosse truie noire, Laetitia Avia. Hervé Berville, qui a malheureusement échappé aux machettes du Rwanda. Les Africains ont mis les colons dehors, mais n'ont pas su profiter des richesses de leur pays, car trop fainéants. Tout juste bons à faire des gosses, à se multiplier comme des rats. Ils commencent à se faire de nouveau coloniser par les Chinois ou à venir dans la généreuse France. Les Français en ont plus que marre, et ce n'est que le début. En 1962, les Algériens ont dit aux colons « c'est la valise ou le cercueil ». Mbaye, on te dit la même chose, et comme tu ne vas pas obtempérer, on va tout simplement te mettre une balle dans la tête. Le climat actuel s'y prête bien. Les victimes d'accidents de chasse augmentent. Tu vas mourir. Autre cible prévue, Avia et Berville.
Laetitia Avia et Hervé Berville étant les membres de La République En Marche. Merci pour cette lettre dramatique et forcément anonyme pour un seul majeur sur RFI, Jean-François Mbaye. Quand on reçoit une lettre comme ça, on réagit comment dans la minute?
Mais déjà, on s'assoit, on se dit c'est pas possible. On est abasourdi, on est choqué. On est aussi pris pendant 30 secondes de haine, de colère. On a envie de voir la personne en face. On a envie de s'expliquer. Voilà, on est impulsif. Voilà comment on réagit les 30 premières secondes. Après, on prend le temps d'analyser tout ça.
Est-ce que vous avez peur aujourd'hui?
Non, parce que ce serait lui donner raison. Vous savez, c'est la peut-être 15e lettre que je reçois depuis le début de ce mandat. Mais c'est peut-être la 15e lettre de trop.
Donc vous avez porté plainte?
Donc j'ai porté plainte.
Alors en seul majeur, aimerait vous donner un droit de réponse, justement, pour ne pas rester sur ces mots. On aimerait entendre ce que vous auriez à lui dire si vous aviez ce monsieur devant vous. Jean-François Mbaye, on vous écoute en seul majeur.
Je regrette que l'auteur de cette missive se soit laissé submerger par l'émotion, de telle sorte qu'il ait omis de signer son œuvre. Ceci étant dit, la nature de ses propos démontre qu'il ne savait manifestement pas à qui il s'adressait. Cette lettre, principalement composée d'invectives et de menaces, lesquelles n'appellent évidemment pas de réponse, débutait par une question. De quel droit un Africain vient se mêler des problèmes de la France? Je ne sais pas ce qu'il en est pour cet auteur, mais pour ma part, ma carte d'identité indique que je suis français. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est qu'en écrivant de telles choses, cette personne a prouvé qu'elle était incapable de satisfaire les exigences républicaines qui font la fierté de notre nation. Alors je voudrais m'adresser à elle, ou à lui. Madame, monsieur, si vous m'entendez, à mon tour de vous poser une question. Pensez-vous qu'en déversant sur autrui la haine et la frustration qui vous meuvent, vous faites honneur à cette patrie que vous m'invitez à quitter sous la menace? Je vais vous dire une chose, et cette chose va vous heurter, parce qu'elle est vraie. Elle va vous heurter davantage encore parce qu'elle sort de ma bouche. Cette bouche qui n'aura de cesse de combattre les pensées nauséabondes qui fermentent dans les esprits malades de vos pareils. Vous n'êtes pas la République. Vous n'êtes absolument pas la République. Vous n'êtes pas la France. Et pour moi, vous n'êtes rien.
Merci Jean-François Mbaye pour ce droit de réponse auquel on tenait sur RFI. Alors, je le disais, je pense que vous en serez d'accord avec moi, tous les Français ne sont pas racistes, mais il y a du racisme en France. On peut formuler les choses comme ça. Est-ce que vous, alors je ne sais pas si c'est un des dossiers justement qui vous a mené sur le chemin de la politique, la question de l'autre, de l'altérité, et elle passe par la différence et la manière dont on peut vivre cette différence. Est-ce que vous avez des idées pour enrayer ce racisme aujourd'hui vis-à-vis de qui n'est pas complètement blanc?
Vous savez, moi je suis un juriste et j'aime raisonner en termes de juriste. Vous avez dans ce pays beaucoup de dispositions législatives, beaucoup de textes qui ont fait référence, qui ont fait écho à certains textes. Vous avez, sur cette question du racisme, vous avez la loi de l'ancien garde des Sceaux, la loi Pleva, qui date, si mes souvenirs sont bons, de 1964 ou 1966.
Qui dit en substance?
Ouais, qui condamne en délit l'incitation à la haine raciale, etc., les discriminations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette loi, en substance, voilà ce qu'elle dit. Dont acte. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, il y a d'autres formes de racisme. Moi, en tant que juriste, et c'est un des combats que je mènerai prochainement, c'est de savoir aujourd'hui en quoi cette loi, cette disposition, répond à ces formes de racisme que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, et je pèse mes mots quand je le dis, il y a non seulement le racisme, comme on l'a évoqué ainsi, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'afrophobie.
Comment vous définiriez-vous l'afrophobie?
C'est le fait finalement de rejeter l'autre rien qu'en raison de son appartenance à une identité culturelle africaine.
C'est la peur?
C'est la peur de l'autre, c'est la peur de l'Africain. Et donc aujourd'hui, on est, à mon avis, dans ce système-là. Quand vous avez, encore une fois, des gens qui sont capables, en 2019, de payer des places de spectacle pour aller voir un humoriste noir, non pas pour rire, mais pour l'insulter, il y a quelques années, ça se faisait en cachette, en catimini. Aujourd'hui, on le fait en toute impunité. Et donc, on a un problème dans ce pays, c'est que cette loi-là, à mon avis, ne répond plus aux formes de racisme, de discrimination que nous vivons à l'heure actuelle.
Alors, il y a la loi, mais il y a aussi l'éducation.
Tout à fait.
Il y a du travail. Aujourd'hui, on ne peut plus, je pense, parler de racisme d'État, mais il y a évidemment toujours des comportements discriminants. Est-ce que vous, Jean-François Mbaye, vous avez l'impression, puisque c'est le sujet aussi qui vous concerne directement, que la diversité en politique française se porte mieux aujourd'hui, que par exemple, notre Parlement français est un peu moins blanc qu'il y a 10 ans.
C'est tout est relatif, c'est ce que nous avons voulu faire. Nous avons voulu montrer au-delà avec...
Tout est relatif, ça veut dire quoi?
Quand on parle de diversité, quand on pense que notre Parlement est moins blanc parce qu'il y a beaucoup plus de diversité, moi je réponds toujours tout est relatif parce que notre Parlement s'est beaucoup diversifié aussi avec des blancs qui ne sont pas des Français pure souche et qui ont d'autres origines, qu'elles soient des origines latines ou des origines maghrébines. Donc pour moi, cette... couleur de peau, c'est relatif. Oui, il y a de la diversité parce qu'il y a des parcours différents, il y a des origines culturelles différentes à l'Assemblée. Mais pour en revenir à ce racisme d'État là dont vous parliez tout à l'heure, mais hier, j'entendais encore, à l'occasion du grand débat qu'organise le président de la République, dans une banlieue à Évry-Courcouronnes, un noir qui relatait au président de la République que quand il allait à la poste ou quand il allait dans telle ou telle administration, qu'on lui demandait s'il savait lire. On est en 2019. Et donc, ça existe encore, il y a des administrations. Mmh. Ça existe.
Donc, c'est pas la loi qui peut seulement réparer ou répondre. Problème d'éducation, de connaissances, peut-être d'inventaire, on en parle souvent, de l'histoire coloniale qui n'est pas faite exactement comme il le faudrait.
Moi, je crois qu'il y a une part, il nous faut réserver une part d'instruction et d'histoire de cette période-là. Et je reviens encore à ma grand-mère, mais il y a quelques années, quand elle venait dans ce collège de Drancy en 2008, expliquer les méfaits de l'esclavage.
Donc en France, hein ?
En France ? C'est extraordinaire. Ça, il faut le sanctuariser.
Vous parliez de votre expérience en tant qu'étudiant lorsque vous étiez à Perpignan où vous avez pu entendre des phrases comme « rentre chez toi », etc. Aujourd'hui, vous êtes un élu de la seconde circonscription du Val-de-Marne, donc au sud de Paris. Vous faites donc du terrain, Jean-François Mbaye. Quelle température vous sentez-vous auprès des Français du fait que vous soyez aujourd'hui un homme politique français et noir ?
Dans ma circonscription, les gens n'y prêtent pas attention tant que ça. Bon, il y a quelques-uns, effectivement, qui...
C'est une bonne nouvelle, il faut le dire aussi.
Oui, tout à fait. Non, mais je suis très, très ravi. Non, ils n'y font pas attention. C'est plutôt la couleur politique que je représente qui les inquiète. Mais ce qui devient dangereux à l'heure actuelle, c'est que ce ne sont plus, quelquefois, les Blancs qui font attention au fait que je sois homme politique français noir, mais que ce soit les Noirs eux-mêmes qui me disent « Mais comment ça se fait que tu sois noir ?» et que tu sois homme politique en France et pas homme politique au Sénégal.
Réponse ?
Réponse, ma vie, je l'ai faite ici. Voilà, c'est la seule réponse que je leur donne, et que ce n'est pas parce que je suis d'origine sénégalaise que forcément je vais être assigné à résidence au Sénégal et faire de la politique au Sénégal.
Un Obama en France, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous y pensez parfois en vous rasant le matin ?
La France n'est pas encore prête. Ce changement... radical, la France n'y est pas prête.
Donc vous faites de la politique, mais sans imaginer que vous occuperez un jour les plus hautes fonctions de ce pays. Vous ne vous rêvez pas en président de la République française.
Moi, j'ai conscience que si je commence à faire ce genre de rêve, je m'éloigne et je me déconnecte de ce pourquoi j'ai été élu. Mes concitoyens, quand ils ont porté leur voix sur mon nom, m'ont confié une mission. Si je commence à rêver d'autre chose que de cette mission-là et que de la mener à bien... Je crois qu'il y a une fracture qui peut s'installer rapidement.
Belle définition de la fonction présidentielle que vous venez de faire là. Vous avez 40 ans aujourd'hui, et peut-être la casquette à l'envers de temps en temps, façon génération consciente.
Est-ce que tu sais la France-Afrique, elle est décidée, regarde la Côte d'Ivoire, en vérité, ils veulent la décimer. Est-ce que tu sais qu'ils dirigent même ton opinion, écoute la radio, analyse bien toutes les allusions. Est-ce que tu sais qu'ils manipulent au niveau de l'image, leur télé c'est du bluff, tout est maquillage. Est-ce que tu sais nos magazines, c'est des collabos qui payent le mieux les belles photos et les éditos. Est-ce que tu sais le CFA, c'est pas ta monnaie, une monnaie coloniale, rien de plus, c'est pas ta monnaie. Est-ce que tu sais qu'on nous confine en prison monétaire, il faut sortir de la brise et les chaînes de l'étau monétaire. Est-ce que tu sais les génocides, c'est organisé, les rébellions c'est la même, tout est balisé. Vous le saviez, vous le savez, mais nous aussi on sait que vous savez, que nous savons, ça vous le savez.
Conscient, génération consciente. On est conscient, génération consciente.
Et au passage, on va embrasser notre Claudicière internationale, Jean-François Mbaye pour En Sol Majeur. Vous qui avez... un faible donc pour Didier Awadi et sa génération consciente. Est-ce que vous vous sentez Bah voilà, c'est ça, une génération consciente par rapport au continent.
Absolument. D'abord, je tiens à vous dire que Didier Awadi et moi, nous avons fréquenté les mêmes bancs du même collège, au collège Sacré-Cœur au Sénégal.
Commis c'est des choses aussi ensemble ou pas?
Oui et non.
J'avais le droit, il y a prescription. Mais
Non, non, mais Didier Awadi, c'est un de mes chouchous en termes de chanteur. Son album, là, qui s'appelle Ma Révolution, d'ailleurs, qui est un mélange un petit peu de rap et de reggae, avec des instruments typiquement africains.
Vous le vendez bien ?
Effectivement, je me sens de la génération consciente. Voilà, de la génération qui, au sortir de pas mal de crises politiques, économiques, sur le continent africain, on sait.
Parenthèse, voilà. Est-ce que vous suivez les élections du Sénégal, est-ce que entre un Ousmane Sonko qui prône la sortie du franc CFA et puis je sais pas un Hadj Issa Sall qui lui veut placer, pour le faire vite, hein, l'homme au centre de son programme, vous votez pour qui vous?
Je voterai toujours pour celui qui place l'homme au cœur de tout projet, mais la réflexion sur la sortie du franc CFA mérite d'être posée.
Exit Macky Sall.
C'est le peuple sénégalais qui en décidera.
Oui, vous en faites partie.
Tout à fait, mais la voix du peuple compte énormément.
Alors, on parlait de votre grand-mère, Catherine Yvette Lauter, qui donc vous a sensibilisé à la chose politique quand vous étiez gamin. Est-ce que cette chose politique aurait un lien avec l'histoire de Gorée, qui est donc ce lieu mémoire de la traite négrière?
Oui, 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 aussi, parce que, vous savez, sur l'île de Gorée, hormis ma grand-mère qui nous parlait beaucoup de son enfance, moi, j'ai eu la chance de connaître l'un des historiens qui est décédé très récemment. On l'appelait Joseph Ndiaye.
Donc le gardien de la maison.
Le gardien de la maison des esclaves. Mais il y a surtout, vous savez, un homme qui a aussi mis un petit peu cette petite étincelle en moi, c'est Blaise Diagne. Blaise Diagne, qui était aussi un des députés de la République française et qui était un insulaire à qui l'on doit finalement la loi sur les quatre communes.
Redites-nous la loi.
Alors, la loi sur les quatre communes permettait à tout Sénégalais qui était né sous les quatre communes du temps de l'Afrique occidentale française, dont Gorée faisait partie, de pouvoir conserver la nationalité française après les indépendances ou de faire son choix. Voilà, donc Blaise Diagne, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, dont on parle très peu en France. On parle beaucoup de Léopold Sédar Senghor, mais on parle très peu de Blaise Diagne. Et donc voilà, l'histoire de Blaise Diagne, son cheminement fait que ça a mis aussi une petite étincelle dans ma construction politique.
Alors, cette connaissance de l'histoire du Sénégal, cette connaissance de l'histoire de l'esclavage, j'imagine que vous êtes allé souvent avec votre grand-mère dans cette maison des esclaves et vous recueillir sur cette jetée et cette porte du non-retour, cette fameuse porte. Est-ce que connaître cette histoire de l'intérieur vous a permis... Mais d'en faire quoi justement de cette histoire de l'esclavage ?
Elle m'a permis de connaître mon histoire, elle m'a permis de porter cette histoire. Aujourd'hui, ce que je ne voudrais pas emporter indéfiniment, l'héritage, mais je la connais. Et ça m'a permis finalement d'être fier de ma double appartenance. L'appartenance à une longue histoire d'ancêtres, esclaves, etc. Et ce que je suis aujourd'hui. Donc ça m'a permis véritablement d'être sur mes deux pieds, d'être confortablement assis dans ce que je représente.
Et il n'y a pas de hiérarchie entre ces deux cultures pour vous ?
Il n'y a pas de hiérarchie. Parce que justement, je ne veux pas emporter l'héritage perpétuellement. Mais quand j'allais visiter la maison des esclaves avec ma grand-mère, je lui posais toujours cette question. Parce que dès que j'arrivais là-dedans, je pensais automatiquement à mon arrière-grand-père. Et je disais, mais ton père, il est parti où ? Elle me disait rien du tout, elle parlait de son père, elle parlait de sa vie de Goréenne à Gorée, etc. Mais je crois qu'elle a toujours voulu occulter cette partie douloureuse de son histoire. Elle est décédée, mais j'aurais voulu effectivement qu'on en parle, elle et moi.
Est-ce que dans cette France qui est la vôtre aujourd'hui, vous avez eu envie de vous rapprocher de certaines associations ? Je pense au CRAN, par exemple.
Pas vraiment. Pas vraiment, j'ai jamais milité dans des associations. Je crois que le...
Milite contre le racisme, hein, donc.
Oui, oui, oui.
Pourquoi ?
Je sais pas, parce que j'étais peut-être dans une forme de résignation et de résilience à m'accepter, à accepter ces insultes ou ces faits commis sur les Noirs. Peut-être, je dis peut-être. J'ai jamais eu l'occasion d'en discuter véritablement avec les associations.
Mais avec vous-même, vous avez eu l'occasion ? Parce que c'est énorme ce que vous êtes en train de me dire.
Oui, avec moi-même, bien sûr que j'en ai eu l'occasion d'en discuter avec moi-même.
D'accepter ce statut de victime, c'est-à-dire...
À un moment donné, quand c'est assez, je comprends, hein, c'est assez paradoxal, mais quand vous vivez dans un pays où finalement vous êtes continuellement stigmatisé, vous vous posez la question, c'est pas qu'on l'accepte, mais on se pose la question de savoir est-ce que finalement c'est pas une réalité ou est-ce que c'est une fatalité. Ouais, c'est, on se pose cette question-là. Bon, j'en ai jamais discuté avec des associations parce que j'ai jamais été confronté peut-être à des situations aussi dures que celles que j'ai vécues là, mais c'est une réflexion qui se pose.
Êtes-vous, Jean-François Mbaye, toujours un fils du Sénégal? La réponse est évidemment oui. Et d'ailleurs, on atteste la voix de Senghor dans votre panthéon intime. Senghor qui en appelle à Césaire.
Césaire a nommé, c'est-à-dire appelé à sa prodigieuse destinée la négritude, qui n'est rien d'autre, comme je l'ai souvent dit, que l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir tout entier. La négritude est contestée aujourd'hui, qu'elle soit de droite ou de gauche, par toutes les idéologies montées à l'assaut de l'Afrique noire, voire par certains Africains eux-mêmes, qui nous disent que c'est un combat, voire un concept dépassé. Je ne le crois pas. Elle demeure l'attitude existentielle choisie par les hommes libres et vécue absolument jusqu'à la lie. Fin de citation.
Agom, arbre à palabre.
Beaucoup de palabres hein, aujourd'hui de la part des enfants même du continent autour de ce concept de négritude. Avec Senghor et Césaire qui, reprenant le mot nègre, disait « Les jeunes nègres d'aujourd'hui ne veulent ni asservissement ni assimilation, ils veulent l'émancipation ». Alors qu'est-ce que vous en faites, vous, de ce concept de négritude aujourd'hui, Jean-François Mbaye ?
Moi, je le mets de côté aussi.
Alors pourquoi le mettre de côté, ce concept ?
Mettre de côté parce qu'il ne colle plus à la réalité et dans le contexte de l'époque entre Senghor et Césaire, quand ils ont inventé et quand ils parlaient entre eux de ce mot de négritude.
Ils ont fait d'une insulte une fierté, hein, on va dire.
Oui,
c'est comme ça, parce
oui,
que ce qui vous choque, vous, c'est le terme même de nègre.
Il renvoie, c'est assez péjoratif dans par les temps qui courent. Vous imaginez mal quelqu'un vous dire nègre, d'ailleurs.
Ce concept n'aurait pas eu une seconde de survie aujourd'hui, vous dites ?
Non. Non, parce que c'est trop péjoratif. Voilà. À l'époque, ils ont transformé ce rejet en une fierté. Ils en ont fait quelque chose de très beau, de très poétique. Mais voilà, maintenant, on l'a dépassé. Maintenant, on est dans une autre ère, dans une autre phase où on recherche plus le panafricanisme plutôt que la négritude.
Dans ce monde noir, il vous a fallu évidemment pouvoir vous identifier, j'imagine. Que ce soit au Sénégal ou en France, vous identifiez à des chanteurs, à des footballeurs, à des comédiens. Alors il y en a un de comédien qui s'appelle Douta Seck. Ah, ça va faire frémir certaines oreilles de certaines générations, j'ai envie de dire. Douta Seck, immense comédien sénégalais, expert du répertoire classique. Petit flashback en sol majeur avec un florilège autour de la tragédie du roi Christophe.
Si vous voulez une réponse officielle, une réponse noble, comme les aiment nos Solons et nos Lycurgues de Port-au-Prince. Dites-leur que je regrette qu'en la circonstance, et par esprit d'animosité contre ma personne, il n'ait pas compris qu'à l'heure actuelle, et au milieu de nos traverses, le plus grand besoin de ce pays, de ce peuple qu'il faut protéger, qu'il faut corriger, qu'il faut éduquer, c'est d'abord...
La liberté.
La liberté, sans doute, mais pas la liberté facile.
Ah, il est temps de mettre à la raison ces nègres qui croient que la révolution, ça consiste à prendre la place des blancs et continuer en lieu et place, je veux dire sur le dos des nègres, à faire le blanc.
On dit waouh Douta Seck, hein, pour un sol majeur sur RFI.
Avec un grand W, ouais. Waouh. Moi, ce qui m'a plu chez lui, c'est sa conception de l'art dramatique. J'étais très jeune d'ailleurs quand la France et le Sénégal, à travers l'UNESCO, l'ont honoré de la médaille de chevalier des lettres et des arts. Mais il m'a toujours fasciné, puis le timbre de sa voix, c'est assez extraordinaire.
Après, il y a cette tragédie que vous avez vue, la tragédie du roi Christophe.
Je l'ai vue.
Faire le blanc, c'est quand même une expression sur laquelle on peut s'arrêter. Comment vous la ressentez, vous ?
C'est très amusant parce que à ma grand-mère paternelle qui quelquefois fait référence à ça en disant tu fais comme les blancs. Et je lui dis mais faire comme les blancs c'est quoi? Ma grand-mère qui me pose cette question, je lui réponds mais mamie, toi aussi tu es blanche alors? Parce que toi aussi quand tu vas te coucher au lieu de mettre un pagne autour de toi, tu mets une chemise de nuit. Donc tu fais aussi comme les blancs. Donc bon, je le prends plus quand ça vient de mes proches, hein, sur le plan de l'amusement, que quand ça devient un peu plus formel et un peu plus directif.
Mmh. Est-ce que vous allez au théâtre?
Non.
Est-ce que c'est nécessaire, selon vous, la culture pour un homme politique?
Oui et non. Oui et non, parce que la culture, c'est un petit peu comme la philosophie chez moi. Quand vous dites « est-ce que c'est nécessaire, la culture ?», on vit dans une époque où tout va très vite. Tout va très vite, on n'a pas le temps de s'arrêter, cogiter, comprendre pourquoi on est dans telle histoire culturelle ou pas. Enfin, je veux dire, les choses, on est rattrapé par le temps.
Donc c'est ça qui vous dicte votre comportement? Mais moi, je parle de nécessité supérieure. Est-ce que quand on est appelé à réfléchir sur le destin des êtres humains, est-ce qu'il ne faut pas passer par des lectures particulières, philosophiques, spirituelles peut-être, politiques? Sur quoi vous fondez votre propre pensée d'homme politique?
Sur des faits, bien entendu.
Est-ce
sur
que c'est des suffisant, faits les faits? Vous lisez Jaurès quand faits. Même, hein?
Oui, oui, je lis Jaurès, oui, parce que Jaurès, je m'attache beaucoup à Jaurès. Mais oui, c'est important d'avoir une certaine hauteur et un certain point de vue au niveau de la culture pour comprendre certaines choses. Mais c'est vrai, il ne faut pas que ce soit l'alpha et l'oméga de l'homme politique aussi. Enfin, il y a aussi les faits et il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent enrichir nos prises de décision. Mais la culture est une place importante.
Pourquoi vous faites ce choix, vous, c'est ce que vous avez l'air de dire, de ne pas avoir de lecture philosophique?
Parce que quand on a une lecture philosophique, on s'arrête uniquement sur la pensée de l'auteur que l'on est en train de lire. C'est-à-dire qu'on ne se construit pas quelquefois sa propre pensée. Moi, j'ai le souvenir encore d'Alembert qui disait « Trop de lecture étouffe le génie ».
Donc vous attendez que votre propre génie
peut-être
exulte et se révèle.
Je me fais ma propre réalité des choses.
Est-ce que vous êtes un pro du proverbe, vous diriez? Ah, je vous laisse réfléchir. En tout cas, nous, on a ce qu'il faut.
Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Goddo to wima modan yellere, yimo begite forondouma ko nyairi. Si quelqu'un te dit qu'il est capable d'avaler une noix de coco en entier, laisse-le faire, c'est qu'il fait entièrement confiance à son anus.
Y a-t-il un proverbe qui gouverne votre existence?
Jean-François Mbeuil.
Oui, il y en a un qui gouverne mon existence et que je peux dire en wolof, si vous me le permettez.
Mais je vous en prie.
Seitane wokul dege waye yachne khel.
Que vous traduiriez par?
C'est-à-dire que quelqu'un de mauvaise intention ne vous dit jamais la vérité, mais peut semer le doute en vous.
C'est quoi au fond votre langue maternelle?
C'est le français.
Mais vous n'avez pas été élevé dans un véritable bilinguisme?
Non. Vous savez, quand vous êtes né dans une famille où élevé là aussi par ma grand-mère qui était proviseur de lycée de jeunes filles à Dakar.
Victor Hugo et de beaux jours, quoi.
Exactement. Et qu'ensuite votre propre mère est prof d'allemand, c'est assez compliqué.
Et vous allez élever vos enfants dans quelle langue alors?
Figurez-vous que ma femme est d'origine pays sérère et donc parle à mes enfants le sérère. Le sérère, mon fils comprend le wolof, mais bien entendu, il parle le français.
On pourrait se quitter sur le proverbe d'un certain Jean-Jacques Rousseau. Je ne sais pas s'il fait partie de vos lectures. Vous, homme politique, Jean-François Mbeuil, oui ou non?
J'en ai lu quelques-uns.
Un peu de contrat social, comme ça, sur le coin de la table. L'on n'est jamais bien quand on n'est pas à sa place. Et dès qu'on en sort, on ne sait plus comment y rentrer. Votre place à vous, est-ce que vous diriez qu'elle est définitivement en France?
Non, parce qu'on ne vit plus à l'époque de nos parents qui, une fois qu'ils étaient installés, leur vie se faisait là. Peut-être que demain, je serai appelé à retourner au Sénégal, peut-être y faire une autre vie. Peut-être que ce sera dans un autre pays, européen ou africain. Donc je ne peux pas dire que ma vie est en France. On est une génération où on n'a plus besoin d'avoir d'attache pour exister.
Un sol majeur at RFI.fr.
Merci monsieur le député d'avoir pris un peu de votre temps pour nous rendre visite en sol majeur. On va se quitter avec un peu de philosophie, celle d'Amel Bent. La voilà, votre source philosophique.
Je vous taquine.
Amel Bent qui vise la Lune. Vous visez quoi, vous?
Je vise toujours l'humilité dans ce que je fais, la rationalité dans mes propos. Je vise l'objectivité. Voilà, je ne suis pas un très très grand rêveur, je suis un réaliste et j'aime à ce que les choses se fassent de manière juste, encadrée et droite.
Amel. Et Amel.
Et Bent. Amel. Bent.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits, moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Vie d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Les poings levés vers l'avenir, lever la tête, tomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là.
Avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio. Et puis bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 15h à Paris. Vous serez des nôtres hein, désormais, Jean-François Mbaye, j'espère bien.
Tout à fait.
Tania Tsikounas, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère demain avec la réalisatrice Jacqueline Gosselin. À demain.
Oh, I do love this.